Alors pour ceux qui étaient là la dernière fois, ça fait déjà quelques dimanches, je suppose que vous vous rappelez de ce que nous avons parlé. De quoi nous avons parlé ? Le berger. C'est bien, il y en a un qui a suivi, je suis content. Alors nous avons parlé du berger, mais tout particulièrement des brebis. Souvenez ? Ouais, je suis sûr que vous avez particulièrement apprécié la comparaison entre les brebis et les chrétiens. Ça me fait sourire quelques-uns. C'est pour cela que j'ai décidé de poursuivre un peu dans le psaume 23. Alors, la dernière fois, nous sommes focalisés pratiquement sur le verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et nous avons vu que c'était tellement riche que nous aurions pu continuer comme cela plusieurs heures. Et nous avons fait donc des analogies tout à fait évidentes entre le chrétien et la brebis. Nous sommes penchés sur le fait que pour pouvoir trouver du repos, la brebis devait être libérée de toute crainte. Elle devait être libérée aussi de tout différend avec ses congénères. Enfin, elle devait être débarrassée des parasites et des insectes qui l'empêchaient de dormir et de se reposer, parce que vous savez que les insectes et les parasites, ça gratte. Et puis une brebis, elle est pleine de laine, et quand ça gratte et que les parasites se mettent à l'intérieur de la laine, c'est insupportable. Et enfin, la brebis doit être rassasiée pour pouvoir dormir du sommeil des justes. Vous connaissez ça, avant de vous coucher, si vous avez bien mangé le soir, vous dormez mieux. C'est bien, c'est normal. Alors donc, nous avons fait, évidemment, nous ne sommes pas restés au plan de la brebis, nous avons fait quelques applications sur la vie chrétienne, donc je ne vais pas revenir là-dessus, ça serait trop long. Mais la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui est... Alors, je l'ai noté très précisément. Dieu se satisfait-il du fait que nous puissions nous reposer au pied du Sauveur, ou a-t-il en réserve pour chacun d'entre nous un cheminement plus long pour accéder à une intimité encore plus grande avec lui ? Vous avez suivi ? Bon, en quelques mots, est-ce qu'on se contente d'une vie chrétienne de base ? Ou est-ce qu'on essaye, avec l'aide de Dieu, d'accéder aux cimes ? Parce que ce que nous allons développer, c'est le verset 4 ce matin. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors, on a sauté un peu quelques versets, mais bon, c'est l'avantage du verset 23, c'est qu'on peut élargir et tirer de très bonnes choses de tous les versets, et de les étudier séparément les uns des autres. Alors c'est le verset 4 qui m'a interpellé, en tout cas pour moi. Ce verset, évidemment, vous l'avez souvent entendu, et il est souvent assimilé à un encouragement pour ceux qui passent par l'épreuve de la mort, soit pour eux-mêmes, les mourants, soit pour l'un de leurs proches. Et c'est la plupart du temps, quand j'ai entendu ce verset, c'était dans cette occasion. Mais pourtant, c'est vrai que c'est un grand encouragement de savoir que Dieu est avec nous dans cette épreuve suprême, mais ce n'est pas le seul enseignement que nous pouvons en tirer. Alors, comme la dernière fois, j'avais pris le sentier du berger et des brebis, je vous invite à continuer un petit peu le chemin avec eux, le berger et les brebis. On va continuer un petit peu l'analogie, si vous voulez bien. Durant l'été, quand l'herbe grasse devient rare en plaine, que se passe-t-il ? Eh bien, les bergers, qui ne sont pas bêtes et qui ont l'habitude de mener leurs troupeaux dans les pâturages de montagne, eh bien, ils prennent la route. C'est ce qu'on appelle la transhumance. Je vois qu'il y en a qui ont retenu leur cours de CM2. Non, c'est pas ce qu'on étudie dans les universités, mais c'est bien de le savoir. Hein, tout le monde n'est pas berger, moi non plus, mais la transhumance, c'est quelque chose qui reste dans les esprits, je ne sais pas pourquoi, parce que, je sais pas, il y a des belles images dans les livres d'histoire ou dans les livres de littérature, des troupeaux qui grimpent doucement vers les alpages. Et dans certaines contrées, on appelle ça l'herbe grasse des hauts sommets, parce que les alpages, c'est en France. Hein. Donc, c'est souvent un long déplacement, c'est vrai, où les brebis montent lentement vers les cimes en se nourrissant en chemin, parce que elles ont besoin de manger même pendant le voyage. Vers l'automne, et les troupeaux redescendent lentement, évidemment, ils ne restent pas là-haut quand la neige vient, dès l'apparition des premières neiges jusqu'à la plaine où la bergerie sera leur abri pour l'hiver. Alors c'est un aller, un retour. C'est vrai qu'en hiver, la brebis est mieux dans la plaine à l'abri de la bergerie que dans la montagne, dans la neige. Alors, pendant cette période de transition, si j'ose dire, le but du berger, évidemment, est de conserver à son troupeau assez de nourriture et assez d'eau pour que chacune de ses brebis puisse rester en bonne santé et puisse se nourrir convenablement. Car, évidemment, dans la plaine en été, les pâturages vont vite sécher et devenir insuffisants pour nourrir les troupeaux. De plus, l'eau indispensable à la survie du troupeau va commencer aussi à manquer, surtout dans les contrées sèches. Hein, parce que les troupeaux de brebis et de moutons, il y en a aussi en Palestine, il y en a un peu partout, hein, pas que chez nous. Bon, c'est vrai que chez nous, on manque au moins d'eau, mais dans Palestine, en été, ben, de l'eau, dans les plaines, il n'y en a pas. Et les bergers en Palestine font pareil, ils essayent de grimper dans les montagnes où les pâturages sont plus verts. Bien. Dans le psaume 23, qui a écrit le psaume 23 ? Ça, c'est une colle, ça. C'est David. Et c'est David qui parle. C'était un berger. Alors lui, il avait fait certainement plusieurs fois le déplacement. On fait comme avec les enfants, là. On essaye de vous réveiller un petit peu. Ça marche, ça marche pas, ça dépend. Donc, il avait fait certainement plusieurs fois le déplacement pour mener ses troupeaux vers les hauteurs en été. Hein, donc il sait de quoi il parle. Et d'ailleurs, tout le psaume 23 est empreint d'une certaine confiance, d'une certaine grandeur qui nous fait penser que David savait réellement de quoi il parlait. Il avait vécu cela. Il connaissait par expérience les dangers et les difficultés, mais aussi les joies de ses déplacements vers la montagne. Vous me suivez ? Pendant ce voyage, alors que se passe-t-il ? Alors le berger, parce qu'en général le berger est seul avec ses brebis, il doit faire face à beaucoup de choses. Il y a des rivières en crue, donc il faut faire attention que les troupeaux ne soient pas emportés. Il y a aussi des glissements de terrain, puisqu'il y a beaucoup d'eau sur les vallonnements. Il y a des tempêtes aussi, subites. Vous connaissez les tempêtes en montagne ? Tout va bien, tout est beau, le ciel brille, et puis 10 minutes après, c'est le crachin, c'est la pluie, c'est la neige, certaines fois, qui s'abat sur vous, et vous êtes coincé dans des creux de montagne, et c'est très dangereux, certaines fois. Hein, pour ceux qui ont fait de la montagne, vous le savez. Moi, j'en ai fait, et bien, certaines fois, j'ai vu arriver des orages comme ça, qui descendaient dans la vallée, et puis il fallait se mettre à l'abri, et ne pas se perdre, surtout. Donc ce n'est pas un voyage d'agrément. Pendant la montée, les brebis vont être soumises à tous ces dangers dont nous venons de parler. Elles aussi. Mais en passant par ces vallées escarpées qui montent vers les hauteurs, elles vont aussi bénéficier de quelque chose, de l'abondance de l'eau qui coule dans la montagne. Vous savez qu'en bas, dans la plaine, maintenant il fait chaud. Il n'y a plus d'eau, mais sur le chemin, l'eau est abondante. Elles vont pouvoir s'abreuver dans les rivières, les torrents, les lacs, tout au long du voyage. Merci Seigneur. Bon, on ne va pas aller plus loin avec les brebis, parce que le voyage est long. On va essayer maintenant de faire quelques applications pour nous, malgré tout. C'est le but de notre prédication ce matin. Donc n'oublions pas la question que nous avons posée au début. Souvenez, Dieu a-t-il en réserve pour chaque chrétien un cheminement plus long pour accéder à une intimité encore plus grande avec lui ? C'est dit avec d'autres mots, ça c'est plus joli. Comme pour sa brebis, notre divin berger ne veut pas nous laisser végéter dans les pâturages de la plaine en été. C'est beau comme application. Il désire nous amener vers les hautes cimes où nous pourrons trouver abondance de verts pâturages et d'eau claire et fraîche. Vous sentez l'eau ? Moi, ça m'a beaucoup rafraîchi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais ce verset nous parle, et avant d'accéder au pâturage élevé et gras, nous avons à entreprendre notre voyage en passant par les vallées sombres et escarpées de notre vie. La présence de notre divin berger est là, qui nous conduit dans ces vallées sombres de la vie. Bon, toutes les vallées de la vie ne sont pas sombres, mais il y en a certaines qui sont assez désagréables à passer. Et comme le troupeau est seul avec son berger pendant le voyage et pendant l'été dans la montagne, ainsi le chrétien bénéficie d'une communion intime avec son sauveur pendant ce voyage. Le ton du verset, d'ailleurs, et nous savons que c'est David qui parle, nous révèle l'intimité, le « je », quand « je » marche, et le « tu », je ne crains aucun mal car tu es avec moi, révèle bien cette intimité de David avec Dieu, du berger envers son troupeau, et de nous envers Dieu lui-même, qui est en train de nous amener vers des hauteurs que nous ne connaissons pas encore. Celui qui a écrit ce psaume a connu intimement son berger au point de le savoir avec lui, même dans les pires moments de sa vie. Vous connaissez l'histoire de David, je suppose que vous connaissez les problèmes qu'il a eus, surtout avec le roi Saül, n'est-ce pas ? Il a traversé beaucoup d'épreuves et Dieu, ayant rejeté Saül, il avait choisi David à sa place. Mais pendant un certain temps, David a dû faire presque royaume commun avec Saül. Il était dans sa demeure et il jouait de la harpe pour lui. Mais plusieurs fois, Saül a essayé d'attenter à sa vie, à la vie de David. Hein. Et une fois que David s'est enfui pour justement sauver sa vie, eh bien Saül n'a pas arrêté et l'a poursuivi dans les déserts pour essayer de lui ôter la vie. Et même dans ces moments difficiles, David pouvait dire à Dieu, tu es mon rocher, ma haute retraite. Il se confie en Dieu malgré tout. Il a même refusé d'ôter la vie à Saül, sachant que c'était loin de l'Éternel et que si Saül devait être tué par quelqu'un, c'était par Dieu et pas par lui. Donc il était soumis totalement à Dieu. Pour nous, nous désirons souvent aller plus haut avec Dieu, c'est vrai. Nous recherchons la sanctification et nous voulons nous départir de la foule en marchant intimement avec notre Seigneur. On ne peut pas dire le contraire, tout chrétien sérieux et veut marcher avec Dieu de cette manière. Nous envions certaines fois aussi ceux qui ont accédé au pâturage d'été déjà. Il y en a certains, vous savez, qui sont déjà en présence du Seigneur, ils sont bien, ils sont super, et ils sont entrés dans cette vie plus belle et plus sublime. Et on les regarde, on est un peu émerveillé presque de voir certains chrétiens qui rayonnent de la présence du Seigneur. Mais nous nous faisons souvent une idée un peu fausse sur la manière dont cela s'est produit. J'ai remarqué cela. Nous pensons pouvoir être transportés sur les hauteurs, un peu comme un hélicoptère, sans passer par les plaines. Hein, vous connaissez l'image du skieur, hein, il y a des skieurs, bon, c'est pas pour nous en général, parce que je pense pas qu'ici, il y ait beaucoup de gens très fortunés pour pouvoir louer un hélicoptère pour se faire déposer en haut des cimes des montagnes pour pouvoir faire du ski pour descendre. Il y en a qui le font, on voit ça à la télé en général, parce que sinon c'est un peu difficile. Alors ils se font déposer en haut, par hélicoptère bien entendu, et puis ils font du ski jusqu'en bas, c'est magnifique. du hors-piste, comme on dit. Alors eux, ils ne sont pas passés par les vallées, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Mais Dieu veut nous faire passer par ces chemins difficiles. Il en est du chrétien comme des brebis. On ne peut accéder à ces hauteurs qu'en passant par les vallées. Alors on aimerait que Dieu change d'avis certaines fois. On aimerait bien aller plus vite. On aimerait bien ne pas avoir tous ces chemins détournés à prendre. Alors on se pose certaines fois cette question, pourquoi passer par ces vallées sombres pour accéder à une communion plus intime avec Dieu? Pourquoi? Dieu a choisi ce moyen pour nous transformer, très progressivement et heureusement pour nous, en l'image de son Fils, comme Jésus-Christ a accepté de naître et de prendre forme humaine et de vivre la vie d'un vrai homme tout en étant vrai Dieu. Nous aussi, nous devons accepter de traverser la vie en pensant par nos épreuves. Alors j'aimerais que nous fassions un petit intermède dans la Bible. On va lire un petit peu, quelques passages, si vous le voulez bien. Dans Romains, par exemple, 6, pour illustrer cela, Romains 6, du verset 5 au verset 8, Romains 6, 5 à 8, nous dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Alors, que nous dit ce passage par rapport à ce que nous avons développé tout à l'heure? Dieu nous identifie à Jésus-Christ dans ses souffrances. Pourquoi faire? Parce qu'il veut que si nous sommes morts avec Christ, nous vivions aussi avec lui. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu nous fait passer par ces vallées sombres certaines fois. Un autre passage qui m'a semblé important, dans 1 Pierre 2, Pierre 2 au verset 11 nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Dans ce passage, Dieu nous montre que notre passage sur terre est une préparation. Nous ne devons pas nous attacher aux choses du monde, mais avoir à l'esprit les choses d'en haut. Nous sommes en préparation pour le ciel. Alors évidemment, c'est plus facile de ne pas s'accrocher aux choses terrestres quand elles sont certaines fois désagréables. Et si nous avons une vie difficile sur terre, nous aurons plus de facilité, certaines fois, à avoir une communion plus intime avec Dieu. C'est vrai. Hélas, on est comme cela, comme des brebis un petit peu qui sont un peu têtues. Ça, on l'a développé la dernière fois. Et nous sommes nous aussi un petit peu têtus. Et il nous faut certaines épreuves pour nous faire comprendre que notre vie n'est pas ici, mais en haut. Et que si nous passons par la vie, eh bien c'est parce que Dieu l'a voulu comme ça, il nous a créés pour sa gloire, afin que nous puissions le glorifier. Mais ce qu'il veut, c'est que nous ayons fixer les regards sur Jésus en haut. Et nous avons déjà une place qui nous est destinée dans le ciel, avec Jésus. Et c'est là que doit être notre cœur. Un autre passage dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, du verset 3 au verset 5. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alors Dieu, là aussi, nous fait comprendre qu'il utilise les épreuves du chemin pour nous rendre capables. Non, il ne nous rend pas capables. Je suis passé à l'autre point avant de passer à l'autre. Dieu utilise ces vallées sombres de notre vie pour tester notre amour avec lui, en lui. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous voulons plaire à celui en qui nous appartenons. C'est Jésus, c'est Dieu. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas s'embarrasser des choses de la vie. En tout cas, pas complètement. Alors dans la vie, nous avons des choses que nous vivons qui sont tout à fait normales et qui sont tout à fait acceptables devant Dieu. Nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de nous habiller, nous avons besoin d'avoir un toit, un travail. Mais ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il nous est dit de rechercher premièrement le royaume des cieux, et cela nous sera donné par-dessus. Alors ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir ces choses, cela veut dire que Dieu sait que nous en avons besoin. Et si Dieu sait que nous en avons besoin, il va nous les donner dans la mesure de sa grâce. Mais ce n'est pas quelque chose que nous devons rechercher, ou ce n'est pas ce que nous devons mettre en premier dans notre vie. C'est la pensée du Seigneur, c'est celle-là. La première chose que nous devons mettre dans notre vie, c'est Dieu. C'est Jésus. Et ces choses-là, qui sont indispensables à notre vie, nous seront données par-dessus. Alors évidemment, le Seigneur va tester notre amour pour savoir ce que nous choisissons. Si nous choisissons une vie tranquille, une vie basée sur les choses terrestres, ou si nous voulons réellement le suivre sur les cimes, comme il nous est dit. Et ce test, il va être reproduit beaucoup de fois dans notre vie. À chaque étape de notre vie, Dieu va nous demander toujours, est-ce que tu m'aimes suffisamment pour me suivre plus loin ? Nous n'avons jamais fini d'avancer avec Dieu. Quel que soit notre cheminement et notre communion avec Dieu, Dieu veut plus pour nous. Alors ça, certaines fois, nous ne le comprenons pas vraiment. Nous pensons certaines fois que nous sommes arrivés à une position en Christ où nous pouvons nous dire, ah, j'ai fait du bon travail. Je suis arrivé où je voulais arriver. Mais Dieu ne s'arrête pas à ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce que nous pensons avoir atteint. Mais il nous dit plutôt que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et le test de la foi, le test de l'amour que nous avons en Dieu, eh bien, c'est tous les jours que nous devons le vivre. 2 Corinthiens 1, 3 à 4, s'il vous plaît. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Je ne sais pas si vous avez expérimenté cela, mais pour pouvoir consoler quelqu'un qui passe par un moment difficile, Dieu choisit souvent quelqu'un qui est passé par la même épreuve. Pourquoi ? C'est presque évident. Quelqu'un qui est passé par une épreuve, eh bien, il a été en communion avec Dieu à ce moment-là, il a eu des difficultés, Dieu l'a relevé, il connaît cette épreuve et il peut consoler une autre personne. Et souvent, nous oublions cela et nous pensons que passer par des moments difficiles, par ces vallées sombres, c'est presque une punition. Certaines fois, ça peut l'être si nous avons commis des péchés et que Dieu veut nous purifier. Mais souvent, c'est parce que nous avons à devenir des consolateurs. Et c'est important pour notre vie de pouvoir vivre pour les autres. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est ce qui fait le tampon, le sceau d'un vrai chrétien. C'est l'amour pour les autres. Et c'est bon de pouvoir consoler des frères et des sœurs qui passent par des moments difficiles. 1 Pierre 1,17 pour terminer. 1 Pierre 1,17. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Alors c'est vrai que Dieu ne fait pas de favoritisme. Pourquoi le chrétien serait-il mis à part par rapport aux autres personnes qui sont sur la terre et qui ne sont pas chrétiens, pour la plupart? Alors les non-chrétiens passeraient par toutes les épreuves du monde et les chrétiens non. Eh bien, non, ça ne se passe pas comme ça devant Dieu. Il ne fait pas de favoritisme. Si les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous aussi, nous étions pécheurs et nous étions privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est venu nous chercher dans notre bout que nous ne devons pas passer par les mêmes épreuves que les autres. Il n'y a pas de favoritisme. Et d'ailleurs, il nous est dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Nous aussi, nous avons à être jugés par Dieu, mais pas pour un châtiment, pour savoir si nous avons été fidèles. Mais le jugement existe malgré tout. Et Dieu veut que nous passions par ces vallées sombres. Il le désire. Alors est-ce que Dieu est méchant? Est-ce qu'il veut nous faire du mal? Je ne pense pas, je suis certain que non. Et la Bible nous dit que Dieu nous aime d'un amour éternel. Mais alors, on peut se demander, est-ce que ce long voyage, pour rappeler, troupeau sur les chemins vallonnés, des vallées sombres, pour atteindre l'herbe grasse, est-ce que ce long voyage fatigant et périlleux vaut-il la peine d'être entrepris? Ne vaudrait-il pas mieux pour les brebis de rester bien à l'abri dans la chaleur de la bergerie et d'être nourris pendant tout l'été avec du foin? Vous savez ce que c'est le foin? C'est de l'herbe grasse? Non, c'est de l'herbe sèche. Et c'est pas bon, paraît-il. Mais le bétail, quand ils n'ont rien d'autre, ils mangent du foin. Ça les nourrit au moins. Mais c'est pas bon. C'est pas l'idéal. Ça ne fait pas des bêtes fortes. Pour le troupeau, le but du berger est de bien nourrir ces bêtes, pour qu'elles puissent être en bonne santé et qu'elles puissent produire du bon lait ou de la bonne viande. Parce que certaines fois, il n'y a pas que des laitières. Hein. Si, si. Mais bon, c'est comme ça, hein. On aime bien manger un bon steak. C'est pour cela que le berger veut la meilleure nourriture et de l'eau en abondance pour son troupeau. Mais c'est vrai que certains bergers n'entreprennent pas ce voyage vers les hauteurs, car le péril et la fatigue occasionnés sont trop grands pour eux. Ils n'auront alors qu'un troupeau maigre et rachitique. Hébreux 5,11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Dieu veut pour nous une nourriture riche et abondante. Il ne veut pas que nous nous qu'Antonio a mangé du foin. Et celle-ci, cette nourriture abondante, se trouve dans les hauteurs et pas dans les plaines en été. Le seul moyen de l'atteindre est d'accepter de se laisser conduire dans les sentiers des vallées sombres de la vie par notre Seigneur et Sauveur. Et je vous assure que Dieu ne va pas utiliser d'hélicoptère. Hein. Il prendra le temps de cheminer avec nous afin que nous le connaissions de mieux en mieux. Il nous aidera à passer par nos moments de doute et de difficulté. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera notre bouclier, notre rocher, notre haute retraite. Quand nous serons arrivés dans les hauteurs où l'herbe est verte et l'eau cristalline, nous pourrons dire comme l'apôtre Paul dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors, je vous pose une dernière question. Est-ce que vous voulez réellement emprunter ces passages difficiles, ces vallées sombres, pour accéder aux alpages, à l'herbe grasse et à la communion intime avec Dieu? C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Prions. Seigneur, c'est vrai qu'en tant que chrétien, nous t'appartenons, nous désirons faire ta volonté, nous voulons te connaître de mieux en mieux. Mais certaines fois, nous hésitons à emprunter ces vallées difficiles et sombres de notre vie. Nous avons peur de cheminer, Seigneur. Mais ce que tu dis, Seigneur, c'est que tu vas être avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu vas nous aider. Tu vas nous aider à cheminer. Tu vas nous porter même quand nous serons trop fatigués ou trop faibles pour poursuivre le chemin. Tu vas prendre soin de nous comme un divin berger prend soin de ses brebis. Et tu vas nous amener vers les hauteurs. Tu vas nous parler. Tu vas te faire connaître à nous, Seigneur, de plus en plus. Tu vas nous préparer au moment où nous te rencontrerons, Seigneur, et où nous te verrons face à face. Merci pour cette sollicitude que tu as, divin berger, envers nous. Merci pour ton amour qui t'a poussé jusqu'à la croix. Merci parce que tu t'occupes intimement tous les jours de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds pour nous diriger sur ces chemins difficiles, Seigneur. Nous te prions ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.